Pour ouvrir mon commentaire sur la paracha Yitro, je ressens le besoin de commencer par définir le lieu d'où je parle, qui est certainement aussi, pour la plupart des auditrices et auditeurs d'Académ, celui depuis lequel vous m'écoutez. Si j'ai été élevée dans la tradition juive, ma formation intellectuelle s'est faite également sous et par l'influence des grands textes de la pensée occidentale, dans son versant grec comme dans son versant chrétien. Cette double appartenance, si elle m'a beaucoup apporté, a aussi été et est encore source de conflictualité, parce que les paradigmes occidentaux dans lesquels se moule d'elle-même ma pensée achoppent parfois sur certains aspects des textes juifs. Et l'une des questions qui me taraude depuis des années est celle qui a guidé la réflexion sur Yitro que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Sans récapituler ici l'histoire de la philosophie occidentale, je me contenterai de rappeler rapidement qu'elle se caractérise par une conception binaire, dualiste, tant de l'homme que du monde. Il y a le corps et l'âme, la vérité et l'illusion, la transcendance et l'immanence, l'esprit et la lettre, et toute réalité se déchiffre en fonction de cette grille de lecture qui constitue son objet en le divisant, en établissant des frontières et des oppositions. Depuis l'intérieur de ce paradigme fondateur, il m'a toujours été très difficile, je dirais presque douloureux, de réfléchir au statut de la Torah. L'idée que la Torah donnée par Dieu au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, la Torah écrite, ne puisse être lue indépendamment de la tradition orale formulée au fil des siècles par les sages, ce que nous appelons Torah chez Béalpé, me perturbait intensément, parce qu'elle remettait justement en question l'idée de transcendance et de vérité absolue que le texte divin révélé était censé constituer. Comment admettre que la parole divine et les discours humains, que les commandements et les hypothèses interprétatives forment un tout organique? Lorsque m'a été attribuée la paracha Yitro, j'ai décidé de saisir cette occasion pour déplier ce questionnement. J'ai commencé par la relire, puis, dans la foulée, j'ai redécouvert, sur plusieurs parachiotes, la suite du récit biblique. Et je me suis rendu compte que la notion même de don de la Torah comme événement unique provenait davantage des histoires simplifiées racontées aux enfants que du texte lui-même. Car dans les faits tels qu'ils nous sont relatés, ce qui se passe est heurté, chaotique, fait à la fois de raté et de répétition. Et même si, comme les sages le disent, le récit biblique ne restitue pas forcément la chronologie des événements, le choix même de disjoindre la linéarité est en soi significatif. La narration consacrée au séjour des enfants d'Israël dans le désert présente moins le don de la Torah comme un événement clairement délimité, à la fois ponctuel et épiphanique, qu'elle ne déroule un processus complexe, laborieux et accidenté. Si l'on suit la progression du récit dans son ordre littéral, une série de tentatives avortées se déploie autour du don de la Torah. D'abord, Yitro intervient pour corriger Moshe dans sa manière de rendre la justice, signe qu'avant même le Sinaï, l'organisation institutionnelle du peuple connaît un premier faux départ. Vient ensuite le premier don des commandements, que les enfants d'Israël ne parviennent pas à supporter, la voix divine les submergeant. Après cet épisode, survient la première tentative de remise des tables, qui échoue tragiquement avec l'épisode du veau d'or. Les tables sont brisées avant même d'être données. Ce n'est qu'au second essai qu'elles peuvent être reçues par le peuple. Enfin, dans un mouvement encore décalé dans le temps, vient la seconde version des 10 commandements, dont le contenu précis ne nous sera livré que dans le Deutéronome, lorsque Moshe s'adressera 4 décennies plus tard à la nouvelle génération qui se prépare à entrer en Israël. La question se pose alors naturellement. Pourquoi la Torah choisit-elle de nous raconter ses faux départs alors qu'elle aurait pu s'en tenir au résultat final et ne nous transmettre que l'aboutissement, le contenu de ce à quoi la reprise réussit à donner naissance? À relire attentivement la narration ouverte par Yitro, on se rend compte que ces premiers départs avortés ne sont pas de simples accidents narratifs. Ils ont un point commun, une structure reconnaissable, et leur récit nous révèle à la fois l'écueil à éviter et la singularité des reprises qui, elles, parviennent à aboutir. Dans chacun de ces épisodes, la tentative première échoue parce qu'elle repose sur une séparation trop nette entre, d'un côté, une loi déjà parachevée, absolue, et de l'autre, des êtres humains réduits au rôle de réceptacle, de consommateurs passifs d'une révélation qui leur serait donnée toute faite. C'est cette dissociation, une perfection descendante face à une humanité qui ne participe pas encore, qui rend impossible la réussite de l'élan premier. Dans ce schéma rigide, la loi apparaît comme pure émanation d'une volonté séparée du monde, sans aucune prise possible de l'humain sur elle. Elle ne se laisse pas tant habiter qu'elle ne descend telle qu'elle, totalement extérieure à ceux qui la reçoivent. On comprend alors que parler de faux départ ne signifie pas que ces tentatives initiales auraient pu fonctionner, mais ont échoué par accident. Les récits de la Torah montrent au contraire que d'emblée, elle n'était pas viable. Elle reposait sur un modèle qui, structurellement, posait problème et était voué à être remplacé par un mode de relation différent. On peut voir une confirmation de cette supposition dans le fait que, lorsque Yitro propose une réorganisation du système judiciaire, les enfants d'Israël sont encore dans le désert, à peine sortis d'Égypte. Au tout début, à la racine même du processus, il apparaît indispensable non seulement que la loi passe par des intermédiaires humains pour pouvoir être appliquée, mais que l'idée même soit émise par un homme. La médiation, comme l'initiative humaine, ne sont pas des correctifs tardifs. Elles sont requises dès la naissance du projet, avant même que la Torah ne soit donnée dans sa forme aboutie. Ce qui relie alors les tentatives qui réussissent, c'est le renversement fondamental qu'elles opèrent. La loi n'y apparaît plus comme imposée à l'homme, à jamais extérieure à lui, mais comme une parole dont l'essence même exige sa participation active. Tout s'organise autour de cette nécessité. L'aménagement proposé par Yitro introduit dès l'origine, on l'a vu, une médiation humaine dans l'application de la justice. La demande des enfants d'Israël que Moshe serve d'intermédiaire pour rendre les commandements audibles montre que la révélation, pour être reçue, a besoin d'une voix humaine qui la porte. Quant aux secondes tables, écrites par Moshe et non plus façonnées directement par Dieu, elles incarnent ce déplacement décisif. La loi n'est pas étrangère à l'homme ni à son vécu, mais elle constitue un lieu où la parole divine ne prend forme que grâce à la gentilité humaine. La place indispensable de l'humain dans les épisodes du désert relève de la même nécessité qui fait que la Torah du texte ne peut exister sans la parole humaine qui l'accompagne. La Torah écrite, par sa forme et son mode d'être, n'est pas complète en elle-même. Elle requiert la Torah orale pour être comprise, intégrée, transmise et appliquée. Il s'agit toujours d'une seule et même vérité. La révélation n'a de sens et de consistance que dans l'espace où elle rencontre, traverse et sollicite la voix des hommes. C'est peut-être ce que vient nous dire aussi le principal changement qu'on peut repérer entre la première version des 10 commandements, celle donnée par Dieu aux enfants d'Israël dans Yitro, celle qui lui demanderont d'interrompre, submergée par sa voix, et la deuxième, celle qui sera reprise par Moshe pour la génération qui se prépare à entrer en terre d'Israël. Dans la première version, il est ordonné aux enfants d'Israël de se souvenir du Shabbat, Zachor, tandis que dans la seconde, il leur est demandé de le garder, Shamor. Il faudrait bien entendu affiner le propos, sachant que cette nuance a fait couler beaucoup d'encre au cours des siècles et que le modeste quart d'heure qui m'est imparti ne me permettrait en aucun cas de m'aventurer en ces lieux touffus. Mais comment ne pas être sensible au passage d'une posture mémorielle et testimoniale à une prise humaine, active, sur la mitzvah et partant sur le monde. Le récit de la réception de la Torah, chaotique, sinueux et heurté au point d'être incompréhensible sans l'herméneutique qui doit, dès le départ, l'accompagner, énonce la nécessité même de la parole qui doit lui conférer son sens. Il vient ainsi nous montrer que le judaïsme n'est ni une religion, ni une philosophie, mais un espace au sein duquel la parole sollicite autant qu'elle révèle, exige d'être sans cesse partagée, relancée, réinvestie. Peut-être est-ce ainsi que l'on peut comprendre la comparaison de la Torah avec l'eau, suggérée à la fois par la Gemara en Bava Kamma et le Midrash, notamment Shir HaShirim Rabba et Yalkut Shimoni sur la Parasha Tekev. L'eau, l'élément par excellence de la fluidité, de la continuité, de l'abolition des limites et des frontières, de la possibilité d'immersion de l'être tout entier, au-delà des distinctions tranchantes et réductrices. Comme l'eau qui s'adapte à tous les contours sans perdre sa nature, la Torah se donne dans un mouvement qui requiert l'accueil humain, non comme une concession, mais comme la condition même de son application. Elle n'est pas un absolu qui descendrait étranger d'un ciel lointain, mais une parole vivante, qui ne devient Torah que dans la rencontre, dans le dialogue, dans l'étude et l'interprétation sans fin que chaque génération reprend et transmet. Cette fluidité n'est pas une faiblesse, mais la force même qui permet à la révélation de traverser les siècles sans se figer, de rester vivante sans se dissoudre, de demeurer une et multiple à la fois.